Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y'a des soleils, y'a des nanas, na-la-di-la-na.
Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusqu'à là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial. Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama en mode été. Nous avons les Bermudas, nous avons les tongs, mais nous avons surtout eh bien, deux séries pour vous accompagner. Une série sur les bandes originales de films. Et à mesure que nous avançons durant cet été, eh bien, nous avançons aussi dans les décennies. Et aujourd'hui, ce sera un blind test de films qui sont sortis entre 1980 et 1989. Et puis toi, tu as une série sur Marcel Pagnol, Guillaume. Et aujourd'hui, tu vas traiter de quel film ?
Eh bien, un film pas forcément très connu, pour une bonne raison, c'est qu'il était perdu, mais je reviens dessus, c'est La prière aux étoiles.
Et puis, il y a toujours une petite partie actualité quand même pour vous aiguiller un peu pour choisir un film qui sort. Et toi, tu as choisi quoi ?
Ah bah alors, L'antithèse totale de Pagnol, c'est un film d'horreur assez affreux qui s'appelle Substitution.
Mais nous commençons avec le blind test consacré aux bandes originales de films.
Merci messieurs, c'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Alors, donc, blind test consacré aux bandes originales de films. Il faut trouver les films ou les compositeurs. Et nous sommes cette fois-ci dans la décennie 1980-89. Il va y avoir des choses évidemment faciles à découvrir. Mais si vous êtes comme moi, eh bien, peu alerte sur les bandes originales de films, j'avoue que je fais très peu attention à tout cela, eh bien, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Voici le premier extrait. Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme indice si je vais « oi, oi, oi » Non, je l'ai mal fait, peut-être.
Ouais.
Non, pas du tout. Alors, c'est un film de 1984. Le compositeur, c'est
Tarzan.
John Scott. Oui,
ah, c'est Greystock, oui.
Et,
voilà.
Et la légende de Tarzan.
De Hugh Hudson.
La musique de John Scott pour Greystock est une œuvre noble et introspective. Alors, c'est loin des clichés aventureux associés à Tarzan.
D'ailleurs, le nom n'est jamais prononcé dans le film.
Tout à fait.
C'est Lord Greystock.
Et son thème principal adopte une approche élégiaque empreinte de mélancolie qui souligne l'aspect tragique et humain du personnage. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette composition de John Scott. Deuxième extrait, vous cherchez le titre d'un film ou d'un compositeur dans la décennie 80-89. Alors là, il y avait un piège, mais j'aurais dû le préciser avant. Donc, tu as quand même trouvé.
C'est la musique du Dernier des Mohicans de Michael Mann.
Oui, alors film sorti en 92, mais la musique a été composée avant, donc c'est pour ça que c'est un peu voilà, troublant. C'est de Trevor Jones, The Kiss, c'est le morceau qu'on écoute, est une pièce puissante et émotionnelle qui accompagne une scène clé du film. Trevor Jones y mêle force dramatique et romantisme épique avec un motif mélodique poignant soutenu par une orchestration progressive. Il y a des percussions, il y a des cordes et puis il y a une montée en tension. Voilà.
Mais tu as tout pardonné parce que le roman de James Fenimore Cooper est écrit bien avant les années 90.
Oui, évidemment. Allez, je pense que là, ça va être aussi facile. C'est le troisième extrait de ce blind test. Il fallait attendre quelques notes de musique.
Oui, c'est Aliens, oui. Composé par James Horner, qui s'inspirait beaucoup de Gustav Holst et de ses planètes, en particulier Mars. Écoutez ça.
James Horner livre pour Aliens une partition brutale, tendue et parfois chaotique, écrite dans des délais alors très contraints. Et le thème principal reflète vraiment cette urgence, une atmosphère sombre et inquiétante qui joue sur les silences, les dissonances, les percussions métalliques et les montées angoissantes.
Et si vous avez dans la quarantaine, vous avez peut-être grandi dans les années 90 et la musique de Aliens, le retour donc de James Horner, a été reprise dans une centaine de bandes annonces, que ce soit pour le cinéma ou alors pour les récapitulatifs avant les débuts de films dans les VHS.
Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se passer de James Horner dans ce blind test, évidemment. Allez, un nouvel extrait, c'est un film entre 80 et 89 à trouver. Alors, extrêmement facile, puisque très, très identifiable.
Et c'est les synthés de Vangelis. Vangelis. Ah, moi, j'ai toujours dit Vangelis. Oui, c'est pour Blade Runner.
Oui, tout à fait. Film de 1982 de Ridley Scott. Blade Runner Blues, c'est le nom du morceau, est un sommet d'ambiance et de minimalisme électronique. C'est vraiment Vangelis, un pionnier de la synthèse sonore. Il arrive à créer vraiment cette atmosphère nocturne, moite et mélancolique, parfaite pour la ville futuriste dont il est question dans ce film. Une bande originale, là, très emblématique. Allez, une nouvelle bande originale.
Thank you.
Alors, ça n'a pas été trouvé, mais tu es sans doute sur la piste. C'est un film donc, de 1987. Alors, si je donne, c'est un réalisateur italien, un compositeur qui est japonais.
Ah, c'est Furio.
Non.
C'est pas... Non, attends.
C'est Le Dernier Empereur.
Ah, de Bertolucci.
Alors, il y a plusieurs compositeurs dans la bande originale, mais là, c'est un morceau de Ryuichi Sakamoto.
Ah oui, voilà. Furio, c'était le début des années 80.
Donc, c'est un compositeur minimaliste qui signe donc le thème principal du film avec délicatesse. La musique combine instruments traditionnels chinois et textures électroniques. C'est ce qu'on a un peu entendu ici. Ça crée une ambiance à la fois méditative, mélancolique et grandiose. Et ben, c'est un mélange qui est un peu à l'image du film de Bertolucci, qui est une fresque intime dans un cadre impérial. Voilà comment s'achève ce blind test consacré donc, aux bandes originales de films entre 80 et 89.
Tu aurais pu mettre ma préférée quand même, ah, qui est celle de Conan le Barbare par Basil Poledoris.
J'aurais pu. Et on peut se quitter avec un thème assez connu de Alan Silvestri, c'est Retour vers le futur. Passons maintenant à la seconde série de ces émissions estivales de Cinérama. Tu as choisi, Guillaume, eh bien, de nous parler de l'œuvre de Marcel Pagnol. Tu nous parles de La Prière aux étoiles.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Une jeune et jolie actrice de cinéma prénommée Florence, hein, habituée à la vie bourgeoise, est fiancée à l'élégant Dominique, fils d'un riche industriel de Lyon. Mais lorsque Florence découvre que c'est lui qui a financé en secret tous les films où elle a été engagée, elle ne souhaite plus l'épouser. Alors chaque nuit, Florence fait une prière aux étoiles dans l'espoir de rencontrer l'homme qui va réellement bouleverser sa vie. À Paris, au début de l'été, Florence rencontre le jeune compositeur Pierre à la Foire du Trône. Tombés amoureux l'un de l'autre, hein, ils partent en vacances en train pour la petite ville provençale de Cassis, à l'hôtel des Calanques, sur le vieux port de pêche. Pierre, particulièrement jaloux, en veut terriblement à l'homme riche qui a été l'amant de sa bien-aimée, et la situation du couple se dégrade. De plus, une prédiction d'avenir malheureux va contrarier le bonheur de Florence. Le trio amoureux va connaître des déchirements et des réconciliations. Eh bien voilà, une belle entrée en matière, n'est-ce pas ? Vous avez envie de voir la suite ? Eh bien, c'est pas de chance, car La Prière aux étoiles, dont vous venez d'entendre le résumé, aurait dû sortir en 1941. Oui, aurait dû.
Tu aimes quelqu'un ? Parle-moi avec franchise. Après ce que tu viens de me dire, je peux tout entendre. Tu veux garder ta liberté parce que tu aimes un autre homme ?
Non. J'ai beaucoup d'amour en moi. J'ai des provisions énormes, mais je n'ai jamais su à qui le donner. J'ai aimé un homme qui eut un visage. Je ne serai pas ici pour vous le dire.
Est-ce que tu aimes quelqu'un qui n'a pas de visage ? Mais Florence, tu n'es pas dans ton état normal. Tu es comme ma Mégève quand tu faisais ta prière aux étoiles.
Qui vous en a parlé ? Vous m'avez espionné !
Non, tu sais que j'en suis incapable. Mais un soir, je t'ai surpris sur le balcon de bois. À peine vêtu par un froid glacial, tu murmurais des paroles incompréhensibles. J'ai dit, Florence, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as répondu, je fais ma prière aux étoiles. Alors, j'ai compris que tu avais la fièvre. Je t'ai forcé à rentrer, je t'ai couché comme une enfant. J'entendais plus reparler.
Je n'avais pas la fièvre, Dominique. Cette prière, tous les soirs, je l'ai faite. Sur les balcons des hôtels de montagne. Sur les plages de la Riviera. Dans les lits étroits des sleepings. Souvent même auprès de vous.
En 1941, Marcel Pagnol est alors au sommet de sa carrière. Après avoir révolutionné le cinéma parlant dans les années 30 avec ses adaptations de ses propres pièces, on a parlé de Marius, Fanny, César, et réalisé des films majeurs comme Angèle ou La Femme du Boulanger, il s'impose comme une figure incontournable du 7e art à la française. Alors à cette époque, il est aussi l'un des rares auteurs-réalisateurs français à disposer de sa propre maison de production et de ses studios près de Marseille. Détail important. Parce que en 1941, c'est aussi la France occupée. Pagnol, replié à la zone libre, a choisi de rester dans le sud. La prière aux étoiles devait être son grand projet de l'année, mais pas uniquement. Il y a eu les célèbres Marius, Fanny et César. Il y aurait dû y avoir aussi Florence, Dominique et Pierre. Oui, trois personnages qui devaient donner vie à une autre trilogie pagnolesque. Alors, sur le petit port de pêche de Cassis, dans le champ de la caméra, on reconnaît Josette D, qui s'est mise dans la peau de Florence, et Pierre Blanchard, le célèbre Merlus du même nom dont on a parlé il y a quelques émissions, qui prête ses traits au personnage de Pierre. Le tournage du premier film doit s'organiser en deux temps, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord mettre en boîte les séquences qui se déroulent dans le midi, puis l'équipe entière pliera bagage direction Paris, ce qui constitue une grande première pour Pagnol qui n'a jamais filmé la capitale. Je reprends un petit résumé qui avait été fait par Stéphane Bern dans une enquête sur ce film qui n'est jamais sorti. Mais même en zone libre, la guerre est un obstacle de tous les instants. L'équipe entre en résistance, tout en essayant de rassembler les matières premières jusqu'à la pellicule même pour mener à bout ce projet. Le tournage avance dans la douleur.
Qu'est-ce que tu leur dis aux étoiles ? Dis-moi ce que tu leur demandes. Peut-être te le donner.
Leur dis que je suis une fille perdue. Puisque je n'aime pas celui qui me nourrit, que j'accepte sa nourriture et sa parole et sa présence. Donne-lui le cadeau. Et de cet homme qui m'adore, chaque cadeau est une gifle. Étoile, donnez-moi celui de qui chaque gifle serait un cadeau.
Par moments, tu me hais, Florence. Je ne peux comprendre pourquoi. Comment se peut-il qu'on aime quelqu'un qui ne vous aime pas ?
Et comment peut-on être aimé de quelqu'un que l'on n'aime pas ?
De tous les mystères, c'est le plus cruel. Pourquoi ces accès de haine subites ? Alors la bonté, ça ne compte pas ?
Il était une fois un paysan très riche. Vois-tu ? Lorsqu'on pose des pièges, on ne prend que des bêtes féroces.
Que faut-il faire quand on aime d'amour une bête féroce ?
Il n'y a pas de bête féroce, ce sont les pièges qui les font.
Dans la douleur, et un matin, Pagnol voit débarquer, c'était presque inévitable, à sa porte de ses studios marseillais, un représentant de la Continental, la société de production cinématographique créée en 1940 par Goebbels, le chef de la propagande du Troisième Reich. En plus de contrôler le cinéma français et d'en faire un outil de propagande, la Continental cherche aussi des projets, soit à récupérer, soit à infuser, pour alimenter les cinémas qui, en ces temps difficiles, ne désemplissent pas. Il faut bien trouver un moyen de sortir et d'oublier un petit peu le quotidien chaotique. Pagnol aurait dû ou pu donner son film, fruit d'un dur labeur. Il préférera le découper à la hache devant les yeux éberlués de son équipe plutôt que de le voir souillé par l'occupant. Il tentera de relancer le tournage, mais ce sera lettre morte. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais si les étoiles n'ont pas toujours porté chance au projet, elles brillent en ce moment de mille feux pour cette prière. Après une adaptation récente et vraiment réussie en bande dessinée qui permet de voir ce que Pagnol aurait dû mettre en scène, on vient de retrouver les bobines, en tout cas des bobines d'une version pas complète, mais qui va être restaurée de ces images. Et dans quelques mois, nous pourrons voir à quoi donc cette prière des étoiles va ressembler. Alors, c'est un petit peu comme l'enfer d'Henri-Georges Clouzot ou le Don Quichotte d'Orson Welles. La prière aux étoiles, c'était devenu une sorte d'œuvre mythique de par son absence même. Ce rêve de cinéma resté suspendu pendant 80 ans quand même a enfin été décroché du ciel où il nous attendait pour le plus grand bonheur des amoureux de Pagnol. À voir à quoi maintenant ça va ressembler.
Et donc là, les extraits que nous avons entendus, c'était quoi, Guillaume ?
Alors, c'est des petits bouts qui ont été mis en ligne par, je ne sais pas si c'est une fondation ou une société de prod, mais en tout cas, ce sont les ayants droit de Pagnol, dont son petit-fils, Nicolas, qui sont très actifs, qui ont partagé au public. Alors, vu l'état, et vous l'avez entendu d'ailleurs, vu l'état des copies, est-ce que c'est des petits rushs qui avaient subsisté, des petites bobines ici et là ? En tout cas, c'est différent de ce qui a été retrouvé récemment, donc bientôt, tout cela, on pourra l'entendre. Entendre dans le bon ordre et surtout en restaurer.
Eh oui, et pas un son haché. Merci Guillaume, en tout cas on te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau film de Marcel Pagnol. C'est le moment maintenant de réécouter un blind test que vous avez déjà pu écouter dans les émissions de Cinérama, et nous avons choisi de vous faire réécouter le blind test autour de la filmographie de Juliette Binoche, grande actrice française et qui était la présidente du jury du Festival de Cannes.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama. Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion. Rediffusion.
Un blind test avec bien l'actrice hein, qui a quand même 34 années de carrière avec 73 films ou séries à son actif, et puis eh bien 4 Césars, rien que ça, pour la meilleure actrice, et un Oscar, celui du meilleur second rôle. Donc voilà, autant dire qu'elle a des prix et qu'elle a eh bien une grosse filmographie. On a choisi 5 films, voilà, vous écoutez les extraits, il faut trouver ce premier titre.
C'est très bien ce que vous avez fait pour moi. Mais vous voyez, je suis une femme comme une autre. Je transpire, je tousse. J'ai des caries. Je ne vais pas vous manquer. Vous en êtes sûrement rendu compte. N'oubliez pas de claquer la porte en sortant.
C'est un peu austère, c'est...
Bleu de Christophe Kieslowski.
Mais pas tant que ça.
Elle a
finalement
quand même dit je transpire et je tousse, ce que je trouve pas hyper safe en ces temps troublés de coronavirus. Je trouve que cet extrait est un peu dangereux.
Oui, alors, mais c'était en 93, donc, le film de Kieslowski, donc, qui était une trilogie. Et là, c'était l'histoire d'une femme qui se reconstruit après la perte de sa fille et de son mari en faisant table rase de son passé. Lion d'or et meilleure interprétation féminine donnée à Juliette Binoche à Venise. Et puis 3 Césars hein, pour le film. Allez, deuxième extrait.
Vous êtes toujours comme ça, aussi cérémonieux?
Vous trouvez ça ridicule?
Non. Au contraire, c'est très rassurant de rencontrer quelqu'un comme vous, dans les circonstances où nous sommes. J'aimerais féliciter la personne qui vous a élevé. C'est votre mère?
Oui.
Quel âge avez-vous?
25 ans.
Tant que ça?
Bon, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Qu'est-ce que vous faites?
Merci pour le thé, pour le pain. Au revoir, madame.
Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai un grave défaut. Je n'aime pas qu'on se moque de moi.
Je ne me moque pas de vous, pas du tout. Ou alors c'est malgré moi. Vous êtes vraiment très susceptible.
Très.
Alors, ça a été trouvé.
L'hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau.
Oui. Et... film de...
95,
bravo. Et elle donnait la réplique à Olivier Martinez, 2,5 millions de spectateurs hein, lors de sa sortie. Allez, troisième extrait.
Oh, c'est bouillant. Oh là là, oh, le trottoir, il est bouillant. Comme à New York, à midi, l'été. C'est incroyable.
Mais oui, t'as pas lu les journaux. C'est le passage de la comète de Halley. À 10 000 km de la Terre, cette nuit, qui provoque cette chaleur épouvantable. Ça va durer encore quelques jours.
La comète de Halley? Allez.
Mais si, Anna. Une grosse boule de neige et de poussière, c'était prévu.
C'est incroyable.
Non, c'est scientifique. Prends mon lit.
Alors, ça a été trouvé.
Mauvais sang. 86, du
oui,
coup.
Film de Léos Carax, atypique, daté pour certains, pour moi intemporel hein, dans sa forme et ce qu'il raconte, où il est question du sida, mais de manière métaphorique à cette époque. Et,
c'était la voix de Denis Lavant qu'on
oui,
entendait.
Oui, évidemment. Donc, bah, ça a mis en avant Denis Lavant, Juliette Binoche, et il y avait aussi eh bien, Piccoli dans ce film. Un autre extrait.
Mon Dieu, que c'est beau. André, doux Jésus, que c'est beau. Oh, regardez-moi ce paysage que vous avez là. Oh, Willy, n'avez-vous jamais rien vu? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
Ouais, papa, vous venez tous les ans, hein, vous venez tous les ans.
Bah, dites donc, vous, grand méchant, vous me prenez pour un exalté. Ou alors je viens trop fréquemment, c'est cela? Je viens trop fréquemment? Isabelle, dites quelque chose, enfin. Dites quelque chose.
Alors, tu parlais de cabotinage hein, tout à l'heure. Là,
là oui. Là, c'est
donc, ça, ouais. Malou de 2016. Mmh. Dernier extrait.
Mon amour, je t'attends. Combien de temps dure une journée dans l'obscurité? Ou une semaine? Le feu s'est éteint maintenant. J'ai horriblement froid. Je devrais me traîner jusque dehors, et alors le soleil me brûlerait. Peut-être que j'ai gaspillé la lumière pour regarder les peintures et pour écrire ces mots.
Alors, quatre personnes qui se réfugient en Toscane après la guerre et leur destin est bien
bouleversé. Et la musique de Gabriel Yared.
Film Le Patient Anglais d'Anthony Minghella.
Oui, de 1996.
Ah, qu'est-ce qu'on a pleuré devant Qu'est-ce qu'on a pleuré
En tout cas, beaucoup de films. Oui. Hein. Les films que j'avais choisis sont essentiellement dans les années 90, sauf Malout. Voilà.
This is Cinerama.
C'était la rediffusion donc d'un blind test autour de la filmographie de Juliette Binoche. Nous reprenons le cours de cette émission avec l'actualité du mois de juillet dans les salles. Un frère et une sœur découvrent un rituel terrifiant dans la maison isolée de leur nouvelle famille d'accueil. C'est la frousse pour substitution.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Oui, hein, d'ailleurs, ce résumé très laconique, se cache le dernier film d'horreur produit par le studio A24, les nouveaux spécialistes des petites péloches qui font peur. Mais avec ce petit pesant de film d'auteur qui fait la différence. Alors, la différence, elle semble désormais minime aux yeux du public, car depuis quelques années, cette formule a été reprise par les concurrents. Mais cette formule permet toujours de différencier A24 de son adversaire direct, la firme Blumhouse, connue pour ses pitchs malins et alléchants, mais bon, l'arrière n'est pas forcément toujours très reluisant. Substitution, lui, aurait pu être produit par eux, mais on va voir en quoi le nouveau film de Dany et Michael Philippou, après La Main en 2023, déjà chez A24, est un pur projet de la firme.
Sois la bienvenue dans ta nouvelle maison.
Pipe.
Et
mon demi-frère Andy.
Où est ta canne, chérie?
J'évite de l'utiliser.
T'as gagné une sœur. Et un frère, Oliver, a perdu sa famille tout comme vous.
Alors déjà, La Main et Substitution est pensée comme une marque. La Main, ça s'appelait Talk to Me. Substitution s'appelle Bring Her Back, dans la langue de Donald Trump. Trois mots mystérieux, trois mots qui claquent pour appâter le spectateur. Et puis, l'exact même modus operandi. C'est un film qui ne s'adresse certainement pas aux âmes sensibles, ni un film d'horreur à regarder avec plaisir, comme un simple slasher estival. D'ailleurs, ça me fait penser que le reboot suite Legacy Quell de Souviens-toi l'été dernier sort quasiment au même moment, mais ce n'est pas la même chose. Substitution est sombre, extrêmement viscérale, implacable et risque de titiller certaines cordes chez des parents, certaines cordes sensibles bien sûr, chez des parents ou ceux qui ont connu une enfance un peu difficile. Bref, c'est super intense, mais dans le meilleur sens du terme, même si le ton est donné d'emblée et que l'on sait qu'on va pas rigoler. Car c'est une lente descente aux enfers et à la fin du film, bonjour la déprime. Alors ce qui est appréciable, c'est que Substitution adopte une approche de l'horreur plus sérieuse et artistique que La Main. Les 30 premières minutes sont intégralement consacrées au développement des personnages, un passage un peu obligé et un peu lent, mais qui aurait pu être plus resserré au montage. Mais vous vous en doutez, qui va payer pour la suite. Parce qu'on apprend à connaître les deux jeunes protagonistes, vite rejoints par un troisième dans leur nouvelle famille d'adoption. Et bien sûr, on découvre assez vite aussi leur nouvelle mère, Laura, jouée par Sally Hawkins.
J'ai parlé à un ange. Il m'a montré une façon de redevenir mère.
J'y croyais pas vraiment, même ça fonctionne.
Écoute.
Ben oui, écoutez, parce que c'est bien ça qui paie dans Substitution. Plutôt que de se contenter de simples sursauts de peur, ce film crée une tension grâce à ses personnages intrigants, changeants et même parfois, voire même souvent gênants. Ce sont eux qui nourrissent cette atmosphère et ces images dérangeantes. Et la vraie trouvaille du film, plus que l'histoire qu'on voit arriver en gros comme un boulevard, il faut être très honnête, c'est de faire de Sally Hawkins une figure aussi inquiétante. Alors elle qu'on a vue si heureuse et porteuse de joie dans le bien nommé Be Happy, ou qu'on a aimé voir tomber amoureuse d'un amphibien dans l'oscarisé La Forme de l'eau, est ici à total contre-emploi et sait être plus terrifiante que n'importe quel monstre. Alors j'ai pas envie d'en dire plus car le film se base sur des surprises, même si le titre français en a déjà beaucoup trop révélé et l'abondance que vous avez entendue est elle aussi très très explicite. Mais si vous avez le cœur bien accroché, parce qu'il y a du sang et du malaise, il y en a tout le temps, je vous conseille de vous laisser tenter par cette substitution.
Et ce film est en salle depuis le 30 juillet.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec nos deux séries estivales. Ce sera pour toi un nouveau film de Marcel Pagnol.
Oui, je vous parlais du Schpunz.
Mémorable. Et puis, nous jouerons aussi au blind test avec les bandes originales de films. À la semaine prochaine.